Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'armée française en Afrique et notamment de certaines perceptions et des représentations qu'on peut trouver dans les armées du territoire et des populations africaines et des conséquences que ça peut avoir, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Carayol, journaliste spécialiste du continent africain et notamment du Sahel. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste indépendant, mais vous écrivez pour des médias français comme Le Monde Diplomatique et Mediapart, mais aussi pour un média en ligne qui est Afrique 21, dont vous êtes d'ailleurs l'une des chevilles ouvrières, qui se spécialise en enquêtes et en articles de fond sur l'Afrique, et dans lequel vous avez publié une suite très détaillée d'articles intitulée « Aux origines coloniales de l'opération Barkhane en janvier et février ». Où vous êtes attaché à traquer un peu le passé et le passif colonial de l'armée française et ce qu'on avait pu voir en transpirer au sein de l'opération Barkhane. Alors c'est là qu'il faut que je dise quand même quelques mots, parce que c'est une série d'articles que j'ai trouvé de grande qualité, extrêmement intéressante, à condition qu'on ne la prenne pas pour ce qu'elle n'est pas, ce qui a pu parfois être le cas, et expliquer, je crois, certaines réactions, disons, assez virulentes à ces articles dans et autour de l'institution militaire. En particulier, et vous êtes très clair là-dessus, ça n'est pas un travail de sociologie qui aurait pour ambition d'enquêter en profondeur sur la manière dont pensent les militaires en général, ou même sur l'institution militaire dans son ensemble. Ça n'est pas non plus un travail de recherche sur la doctrine militaire française dans sa globalité. Et surtout, et je vais insister là-dessus, ça n'est pas une enquête qui aurait pour propos de dire ou de démontrer que Barkhane est une opération coloniale pour conquérir des territoires ou capter des ressources. Alors je vais lire parce que c'est très explicite et c'est littéralement la première phrase de tout le dossier, donc je vais la lire pour pas qu'on vous fasse de mauvais procès. Disons-le, dès le début, afin d'éviter tout malentendu, la guerre que la France mène dans la bande sahélo-saharienne depuis 9 ans n'est pas une guerre de colonisation. Il ne s'agit pas pour la France de reconquérir un territoire qui fut jadis un des fleurons de son empire et une des fiertés de son armée, ni d'imposer son joug sur les populations, ni d'y piller les richesses naturelles. Donc ça n'est pas tout ça, et vous l'écrivez donc extrêmement clairement, même si ça n'est pas vraiment la partie qui a été retenue, et on peut le comprendre, puisque ces réserves étant émises, vous êtes quand même lancé dans une grande enquête pour saisir les échos, presque les fantômes coloniaux qu'on peut parfois apercevoir chez certains militaires et dans certaines parties de l'armée française, et qui se sont donc révélés à la lumière de Serval puis de Barkhane. Et l'image qui m'est venue en vous lisant, c'est presque celle du carottage, au sens géologique du terme, parce que vous vous êtes attaché à les forer, à les creuser dans certaines parties de l'armée où on peut trouver ces échos et les expliquer, comme vous le faites très bien. Alors vous englobez évidemment pas tous les militaires là-dedans, et on pourra en reparler, mais il reste que c'est quand même assez acide à la lecture du point de vue militaire, de voir de manière évidente qu'il y a ça, il y a ce passé colonial aussi dans l'institution. Ce qu'on sait en général, mais un peu conceptuellement, on l'évacue assez vite en disant évidemment il y a des rémanences coloniales, etc. Alors que vous, vous le pointez très clairement et très précisément. Et je vais juste ajouter pour terminer que ça me paraît extrêmement nécessaire parce que ça force à se poser des questions importantes, quitte à ne pas avoir de réponse tout de suite. Mais je crois que c'est le moment aussi, parce qu'on est dans une phase de retrait, on peut appeler ça l'énième réarticulation si on veut, mais de Barkhane, qui se conclut globalement par un échec, qui est d'autant plus notable que c'est pas vraiment un échec militaire. Alors, en même temps, c'est toujours problématique de le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas séparer le politique du militaire, et l'échec de Barkhane, c'est aussi un échec bon, militaire dans une certaine mesure. Mais en tout cas, ça n'est pas un échec tactique, ni dans les déploiements et les combats. Et donc, il me semble que c'est vraiment le moment maintenant de se poser ce genre de questions profondes et qui n'admettent pas de réponse rapide sur ce qu'on pourrait appeler la culture militaire, et qui peut expliquer peut-être, en partie, et dans une mesure qu'il faut questionner, les échecs de très long terme de l'action française dans la région. Mais donc, commençons peut-être par le commencement, Rémi Carayol, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de la région, du coup, comment est-ce que l'idée de l'article, puisque c'en était un d'abord, avant de devenir une série, vous est venue, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui, sur le terrain ou pas d'ailleurs, vous a mis sur la piste en quelque sorte de ces fantômes coloniaux de Barkhane?
Oui, bah c'est sur le terrain, effectivement, à force de fréquenter non seulement des militaires, mais aussi des diplomates, des chercheurs, et puis des acteurs locaux qui sont au contact direct, eux aussi, bien plus que moi d'ailleurs, qu'avec les militaires. C'est en me déplaçant donc, sur le terrain et en discutant avec plusieurs personnes que j'ai découvert quelque chose que moi j'ignorais, parce que je ne suis pas un spécialiste des questions militaires. Je suis un spécialiste, si je peux employer ce terme, de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément du Sahel. C'est une zone que je couvre depuis une dizaine d'années désormais. Et donc j'ai découvert petit à petit que effectivement il y avait un héritage colonial, un héritage de la conquête coloniale qui était quand même très puissant au sein de l'institution militaire, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite en fait. C'était des discussions, je l'intégrais sans vraiment le formuler, sans vraiment l'intellectualiser. Et en fait, il y a eu deux déclics. Le premier déclic est arrivé en fait lorsque j'ai discuté avec des chercheurs notamment qui avaient travaillé auprès de militaires et qui m'avaient expliqué qu'il y avait quand même beaucoup de références chez les militaires avec lesquels ils discutaient à des grandes figures de la conquête coloniale, le maréchal Lyautey, mais aussi Gallieni, et aussi à des victoires en fait, ou à des dates clés. Ça, c'était le premier déclic. Mais là aussi, ça ne m'a pas forcément poussé à enquêter là-dessus. Le vrai déclic, le deuxième déclic, et celui qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je travaille là-dessus, c'est quand j'ai appris qu'au sein du quartier général de l'état-major de la force Barkhane à N'Djamena, à une époque, la lettre de Bernard Lugan, donc un historien que la plupart des auditeurs, j'imagine, connaissent, était lue, et non seulement lue, mais en plus qu'elle servait parfois à animer certains briefings. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, cet héritage-là est quand même très présent et pas seulement dans l'imaginaire, en fait. Il peut avoir des conséquences, on va dire, plus opérationnelles.
On reviendra sur Bernard Lugan, évidemment, et sur son influence, malheureusement. Bref, on en reparlera. Mais donc, ouais, et comment est-ce que... Ensuite, vous êtes allé chercher. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette influence?
Il y a plusieurs sources, en fait. Comme vous l'avez dit en introduction, moi, c'est pas un travail de recherche que j'ai effectué, c'est une enquête journalistique. Donc, je suis allé grappiller un peu partout. D'abord, je me suis mis à lire les livres qui avaient été écrits par tous les officiers qui revenaient du théâtre des opérations, soit au sein de la force Serval, soit au sein de la force Barkhane. Effectivement, dans un certain nombre de ces ouvrages, on voit qu'il y a des références récurrentes, voire permanentes, à certaines figures ou à certaines dates clés de la conquête coloniale. Mais au-delà de ces écrits qui ne représentent en quelque sorte que leurs auteurs, je suis aussi allé chercher dans des enquêtes sociologiques qui ont été menées au sein même de l'institution militaire, dans des travaux d'historiens à propos de la conquête coloniale. Et puis aussi, j'ai glané des éléments dans les discussions que j'ai mené à partir de ce moment où j'avais ça en tête, encore une fois avec des militaires, avec des diplomates, avec des chercheurs, avec des acteurs de terrain, mais aussi dans des documents officiels, parce que j'ai commencé à m'intéresser avec mon œil de néophyte en la matière à la question de la doctrine militaire, et je me suis rendu compte que sur un certain nombre de documents officiels, soit des revues militaires, soit des documents évoquant directement la doctrine, il y avait ces références donc, du passé, en fait.
Alors restons peut-être une seconde sur ces ouvrages que vous avez, enfin ces livres donc, que vous avez regardés, parce qu'il y en a quelques-uns, tous les théâtres d'opération, il y a toujours des gens qui finissent par écrire d'une manière ou d'une autre, et notamment il y en a un sur lequel vous vous appuyez beaucoup, il faut en parler, parce que c'est important, et puis ça permet peut-être aux auditeurs d'ancrer et de comprendre de quoi vous parlez exactement. C'est l'ouvrage du général Barrera, c'est important parce qu'il a été le commandant de la force Barkhane. Alors dites-nous un peu ce que vous y avez trouvé dans cet ouvrage.
Bon, d'abord, avant tout, je voudrais préciser, parce que je sais qu'il y a eu des réactions très négatives, Moi, je l'ai un peu fréquenté sur le terrain au début de Serval. C'est une personne que j'ai aimé, en fait, fréquenter.
C'est le truc, c'est très difficile de séparer l'analyse du propos du personnage, parce qu'évidemment, ça a l'air comme un truc à Charles. Moi, personnellement, je le connais pas du tout, mais tous les retours qui en sont, c'est que c'est quelqu'un de vraiment formidable et très sympathique et très humain, etc. Et du coup, ça explique aussi probablement pourquoi certaines personnes ont voulu prendre sa défense humainement, que vous analysez le bouquin en tant que tel, quoi.
En fait, l'objet n'est pas du tout de m'en prendre ni à Bernard, au général Barrera, ni aux autres auteurs. L'idée est de montrer que ces personnes-là, dont certaines sont, je le dis de mon point de vue personnellement, pour celles que j'ai pu fréquenter, des personnes tout à fait agréables et avec lesquelles discuter, c'est vraiment un plaisir presque. Je m'en prends pas à ces personnes. Je me sers des références qu'elles peuvent utiliser pour en fait apporter une critique de l'institution, en fait, l'institution militaire, de ce que ça, voilà, dans son ensemble, des biais qu'il peut y avoir au sein de cette institution. Il ne s'agit pas de m'en prendre à une personne nommément.
Mais alors, c'est toujours, ça pose aussi la question de ce qu'est l'institution et dans quelle mesure ce que vous identifiez est représentatif de l'ensemble de l'institution. Évidemment, on va en reparler parce que c'est une grande partie du sujet. Mais alors, donc, si on prend l'exemple de Bernard Barrera, de cet ouvrage du général Barrera, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Mais en fait, on voit qu'il y a une réelle... je ne sais pas si le terme nostalgie est le bon, mais on voit que dans sa construction intellectuelle, la conquête coloniale a joué un rôle important. Il se trouve que le général Barrera, comme un certain nombre d'autres officiers, est issu d'une famille d'officiers, que cet héritage familial-là, il est à l'évidence très fort. Il en parle dans son livre, hein. Je ne le dis pas en extrapolant, il l'écrit lui-même dans son livre. Et en fait, au fil de la conquête du Nord Mali, il revient sur des lectures de son passé ou de choses qu'il a pu lire au moment de son cursus, de sa formation d'officier, la conquête de Tombouctou, ou des batailles, ou des noms d'officiers. En fait, il revient et souvent il en parle comme d'un moment effectivement glorieux de l'histoire de l'armée française. Ce qui peut s'entendre, effectivement, de nombreux faits de gloire, en fait, au sein de l'armée française datent de cette conquête coloniale. Mais lu en 2020, en 2015, en 2022, ça a une saveur un peu différente, en fait. Et moi, effectivement, quand j'ai lu ce livre, encore une fois, que j'ai apprécié, j'ai quand même été assez frappé par cette omniprésence de cet imaginaire colonial, en fait.
Mais alors ça, c'est donc les échos, c'est quelqu'un, un militaire qui vient d'une famille de militaires, vous l'avez dit, c'est pas exceptionnel. Enfin, bon, généralement, si les militaires ont des ancêtres qui servaient à peu près au 19e siècle, généralement ils ont participé d'une manière ou d'une autre à la conquête de l'Afrique à l'époque. Donc on perçoit que, bon bah voilà, il y a des lieux qui leur disent quelque chose dans leur histoire familiale. Mais au-delà de ça, puisque, bon, si on garde l'exemple du général Barrera, bah c'est quelqu'un qui avait des grosses responsabilités dans Barkhane. On dépliera tout ça peut-être un peu plus précisément après, mais quelle influence vous pensez que ça peut avoir eu? Parce que ça, opérationnellement, par exemple, dans la manière de comprendre le territoire, l'ennemi, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste des rêveries, des songes et des méditations familiales, ou est-ce que on peut y trouver des vraies conséquences dans ce qu'a été l'action de l'armée française dans la région?
Alors, si c'était uniquement des rêveries, je pense que j'en aurais pas fait cette série. Non, si je me suis vraiment intéressé à ces sujets, c'est parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que ça avait quand même des conséquences au-delà d'une espèce de plaisir personnel d'un officier ou d'un militaire qui est sur le théâtre des opérations. Non, il y a des conséquences, et en fait, y en a certaines qui sont très explicites. Celle qui me semble, moi, la plus flagrante, alors là, on franchit plusieurs années, puisque on n'est plus dans le cadre de l'opération Serval, mais on est dans le cadre de l'opération Barkhane. Quand, en 2017-2018, l'armée française fait le choix, un choix important, de s'allier avec des groupes armés, qui sont des milices, fondées sur une base communautaire, c'est-à-dire que les membres de ces milices appartiennent à une communauté, c'est tout. Ces deux milices, ce sont le MSA, le Mouvement du Salut pour l'Azawad, et le Gatia, le groupe, une milice Imrad. Le choix est fait de s'allier avec ces milices qui contrôlent une partie du terrain de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, notamment au sud de la région de Ménaka et au nord de la région de Tillabéri. Donc le Ménaka, c'est au Mali, Tillabéri, c'est au Niger. L'armée française, dans cette zone qu'elle ne contrôle pas et que l'armée nigérienne ne contrôle pas et que l'armée malienne ne contrôle plus du tout, l'armée française fait le pari d'accompagner sur le terrain et d'appuyer ces milices qui se proposent de remplir la mission des armées nationales. Le problème, c'est que ce sont des milices qui ont un agenda politique qui leur est propre, qui n'est pas forcément le même que celui des États ou que celui de la force Barkhane, et que ces milices, surtout, sont accusées de commettre des exactions contre d'autres communautés, avec lesquelles la communauté de ces milices est en concurrence pour X raisons depuis des décennies. C'est ce que j'ai appelé une alliance coupable. Dans un article que j'ai publié à l'époque dans Mediapart. Pourquoi ? Parce que, de fait, l'armée française s'est rendue complice de certaines de ces exactions, indirectement. Et il se trouve que cette stratégie de s'allier avec des groupes, des milices, c'est une stratégie qui a été développée, qui a été élaborée et qui a été expérimentée durant la conquête coloniale. Le maréchal Lyautey ne disait pas autre chose, c'est ce qu'il prônait. C'est-à-dire que pour s'imposer dans des zones qui sont difficiles à contrôler, il faut jouer avec les divergences, les adversités locales. Et donc, parier sur une communauté pour qu'elle nous aide, ou sur une milice pour qu'elle nous aide, pour combattre une autre communauté plus ou moins résistante. Et ça, c'est directement, c'est une adaptation moderne d'une stratégie issue de cette époque-là, et ça a été clairement dit, non pas à moi, parce que moi aucun officier ne me l'a dit, mais plusieurs sources, notamment des chercheurs et des diplomates, qui se sont inquiétés de cette question, plusieurs sources m'ont affirmé que des militaires leur avaient dit « c'est comme ça marchait au XIXe siècle, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui ».
Et alors, plus généralement, est-ce que, donc là on est sur un point très particulier qui nous a aidé à voir la chose, est-ce qu'il y a d'autres, manifestations, d'autres signes, disons, de cet imaginaire, de cet héritage colonial dans la manière dont les armées fonctionnent où est-ce qu'on voit la nostalgie dans la présence des armées françaises sur le terrain? La nostalgie, ou en tout cas ce passé omniprésent?
La nostalgie, on la voit dans les écrits, pas forcément sur le théâtre des opérations. Je pense que d'abord, les hommes et les femmes qui sont sur le terrain n'ont pas vraiment le temps d'être nostalgiques, peut-être après. Donc la nostalgie en soi, c'est plus dans les écrits. Moi, je dirais plutôt que c'est une forme de logiciel. C'est-à-dire que dans le logiciel aujourd'hui de l'armée française, lorsqu'elle opère dans cette zone qu'elle croit connaître, puisque effectivement elle l'a conquise et elle l'a même administrée pendant un certain nombre d'années. Dans ce logiciel-là, les références de cette époque sont importantes. Et donc ça se traduit par ce dont je viens de parler. Ça se traduit par aussi des formes d'acquaintance ou de perception par rapport à telle ou telle communauté. Qui peuvent jouer encore aujourd'hui, alors que les choses ont tellement évolué depuis plus d'un siècle qu'elles sont parfois fausses, en fait. Et là, on en vient à la question du mythe de l'homme bleu.
Donc le mythe de l'homme bleu, c'est un des quatre articles que vous avez fait paraître, c'est le fait qu'il y aurait un intérêt, un romantisme, une affinité entre certains militaires français, mais bon, ça a l'air même assez répandu, et les Touaregs. C'est l'idée que les Touaregs seraient des combattants à la fois super et redoutables, mais en tout cas plus intéressants que la moyenne des populations dans la région, et que donc, soit comme ennemis, soit comme alliés, bon, les Touaregs sont centraux, disons, dans la perception des militaires français de la région.
Oui, alors ce que j'explique dans l'article, c'est que lorsque en 2013 l'opération Serval est lancée, ce romantisme-là, ce mythe, il est quand même encore très présent. Aujourd'hui, il a pris un coup, on va dire, parce que justement, c'est la guerre, et donc dans la guerre, il y a des alliances qui évoluent, et que les militaires français qui prônaient peut-être un rapprochement avec les Touaregs, parfois se sont sentis trahis. Ou parfois on compris que les intérêts des Touaregs ne s'alignaient pas totalement sur les intérêts de l'armée française ou des services de renseignement français. Donc ça a évolué au fil du temps. Cela étant dit, lorsque en 2013 l'armée française arrive au Mali, effectivement, il y a en fait, lors de la conquête coloniale, certains groupes Touaregs ont été les principaux résistants à cette avancée de l'armée française. Mais ensuite, une fois qu'ils ont été conquis, ils sont devenus des alliés. Et depuis lors, les liens ont toujours été maintenus entre les militaires qui étaient dans ces zones-là, jusqu'à la décolonisation, mais aussi après avec les services de renseignement. Et ces liens n'ont jamais été rompus, en fait. Donc, quand l'armée française arrive au Mali en 2013, on ne peut pas lui reprocher de se rapprocher de personnes avec qui elle a déjà des liens. Et de fait, lorsqu'elle arrive dans le nord du Mali, et notamment à Kidal, qui est l'un des fiefs des Touaregs et l'un des symboles pour les groupes indépendantistes, l'armée française fait le choix de non seulement de dire à l'armée malienne « ne venez pas ici » pour tout un tas de raisons qui sont tout à fait justifiables, « ne venez pas ici », parce que, en gros, ils ont besoin des Touaregs pour traquer les djihadistes et aussi pour aller chercher les otages qui sont détenus par les djihadistes. À l'époque, il y a des otages français. Et ce choix, alors j'explique dans mon article, ce choix il est conjoncturel en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à faire ce choix, un intérêt politique et stratégique. Mais il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi parce qu'on croit connaître c'est les Touaregs, parce qu'on pense qu'on peut leur faire confiance, ou on pense qu'on peut les contrôler, parce qu'on est à peu près persuadé de connaître leur fonctionnement.
C'est là que c'est intéressant, c'est que vous, en tant que spécialiste spécialisé non pas dans l'institution militaire, mais dans les dynamiques locales, ce que vous soulignez, c'est que donc les militaires ont l'impression de très bien connaître ces Touaregs, en fait ils connaissent rien du tout, ou en tout cas il y a énormément de dynamiques à l'intérieur des groupes, parce que quand on a dit Touareg, on n'a pas dit grand-chose, il y a énormément de dynamiques internes, etc., qui passent complètement sous le radar, aussi parce que les militaires n'ont pas que ça à faire de faire de l'ethnographie, de l'analyse politique de groupes tribaux, mais que donc il y a l'idée qu'on saisit à peu près le truc, alors qu'en fait, il y a tout un océan de subtilités qui échappe et qui du coup a des conséquences à terme.
Oui, et c'est un chercheur qui, lui, a travaillé un peu avec l'armée française et puis qui connaît très bien le milieu des Touaregs, qui me disait, et en fait, c'est un double piège, parce que non seulement les militaires, encore une fois, quand je dis les militaires français, c'est une généralisation qui n'a pas vraiment de sens, hein, mais certains militaires français qui arrivent sur le terrain, ils croient les connaître, et donc, alors qu'ils ne les connaissent pas forcément, parce qu'il y a des enjeux, il y a des dynamiques qui sont en permanente évolution, en fait, dans ces sociétés, comme dans toutes les sociétés. Donc, ils croient les connaître, alors qu'ils ne les connaissent pas forcément, et parce qu'ils croient les connaître, du coup, ils sont persuadés de savoir, alors qu'ils ne savent pas, et du coup, ils se trompent. Ça, c'est quelque part assez inévitable. Mais ce qui est intéressant dans cette vision des Touaregs, c'est une vision qui est un peu arrêtée, en fait. C'est-à-dire croire que les dynamiques au sein des sociétés Touaregs, je dis bien des sociétés Touaregs et pas de la société Touareg, croire que ces dynamiques sont à peu près similaires à celles qui prévalaient en 1890 ou en 1920, c'est avoir une vision passéiste et essentialisante de ces populations-là. Et c'est l'un des biais, effectivement, l'un des travers que je dénonce dans cette série et que j'assume totalement. Il ne s'agit pas de dire que l'armée elle est raciste ou elle essentialise les peuples, mais il s'agit de dire qu'il y a une tendance dans la perception des choses parfois à essentialiser les populations de ces contrées.
Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est la... Ah, c'est aussi un des limites peut-être, enfin, remarque qu'on peut faire à tout ça, c'est la question de jusqu'où est-ce que ça va. Par exemple, on a parlé de Bernard Barrera, et qui a un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait la conquête coloniale. On parlera probablement des officiers. Enfin, mais bon, qu'il y ait des officiers, qu'il y ait ce genre de vision, etc., parce qu'ils ont lu peut-être des récits de la conquête au 19e, etc., bon, on peut l'admettre, mais la question, c'est à quel point est-ce que c'est représentatif, à quel point ça se diffuse, par exemple, dans une unité, dans un corps, etc. Enfin, je veux dire, que le colonel, enfin, ou que l'officier qui a lu tout ça, qui a un imaginaire de tout ça, puisse avoir des représentations qui soient héritées lointainement, sans doute, je veux bien l'entendre. Le militaire du rang qui s'est engagé à un niveau bac et qui a été projeté dans Barkhane, on peut imaginer qu'il a probablement moins un romantisme et des conceptions préarrêtées sur les sociétés Touareg. Donc la question c'est, est-ce que c'est une affaire d'officier qui, bon, de coup peut avoir des conséquences stratégiques, puisque c'est les officiers qui font un peu la stratégie, ou est-ce que ça se diffuse aussi à l'échelle, par exemple, d'une unité ?
C'est une bonne question et je suis incapable d'y répondre. Pour moi, de ce que j'ai pu, sur ce sur quoi j'ai pu enquêter, ça, c'est une histoire d'officier. Je suis absolument incapable et à ma connaissance, il n'y a pas d'études sociologiques qui pourraient montrer en fait quelles sont finalement les passerelles entre le monde des officiers et les soldats de rang sur ces questions-là en fait. Ça, j'en suis incapable. Ce que je sais pour en avoir discuté là pour le coup avec des journalistes qui sont spécialisés défense et donc qui fréquentent des officiers mais aussi des soldats de rang, c'est qu'eux, ils pensent qu'il y a quand même un fossé entre les deux sur ces questions-là.
On a cité du progrès tout aussi bien chez les Français, c'est vrai. On prétend que les Pédouins sont des bandits de grand chemin. Que quoi ? Tout à fait la vieille histoire. D'abord la base est notoire. Il n'y a pas de chemin du tout, donc pas de bandits, voyez-vous. Mais malgré ça, au Sahara, et quel tas de joie, il y a maintenant chez les Pédouins. Des autos ont remplacé leurs vieux chapeaux. On ne peut plus traverser le désert en semaine sans se planquer dans une Citroën. Heureusement, les Bédouins sont intelligents. C'est pratique, ils ont créé le sens unique. Il n'y a qu'une chose, ils disent en parlant de leur auto. J'ai une 12 ou une 40 chameaux, pas c'est beau. Fatalement, ils ne peuvent pas parler comme chez une.
Alors justement sur cette question des officiers, c'est tout à fait intéressant, parce que bon, si on admet qu'il y a des conceptions qui sont diffusées au moins à certaines parties disons de l'institution militaire, il faut s'interroger sur les ressorts de cette diffusion. Et là notamment, bah, on a commencé à en parler mais il faut en reparler, c'est vous consacrer tout un article à cette personnalité qui est Bernard Lugan. Qui est une personnalité qui est importante, en vérité, dans quelle mesure il faut le voir. Mais bon, déjà, est-ce que vous pourriez peut-être le présenter aux auditeurs qui auraient la chance de ne pas avoir croisé cette référence ?
Alors, pour faire court, parce qu'il a une vie assez longue et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bernard Lugan, c'est un historien africaniste qui se prétend être un spécialiste de l'Afrique. Déjà, c'est un problème en soi. Personne ne peut se prétendre être spécialiste de l'Afrique. On peut être spécialiste d'une région de ce continent. Lui, il s'autoproclame spécialiste du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Égypte et donc maintenant du Sahel.
Non, sur Est-Ouest, il sait tout faire.
Il sait tout ce qui se passe sur l'Afrique. Et de fait, pour lui, en Afrique, et ça, il ne cesse de le répéter, de l'écrire à longueur d'articles et à longueur de conférences, pour lui, l'Afrique, c'est simple, tout est ethnique. C'est sa thèse, en fait. Et il la défend depuis des années et des années. Pour revenir juste sur le personnage, il a fait la coopération au Rwanda pendant une dizaine d'années. Quand il revient en France et il enseigne à l'université de Lyon, qui est connue à l'époque pour abriter un certain nombre d'universitaires racistes, ou négationniste.
Là, vous, alors, par charité, vous passez peut-être, mais parce que je vais le dire, parce qu'il l'assume tout à fait, il y a encore des vidéos où on le voit, c'est un royaliste de l'Action française. Il fait encore des vidéos où il se vante d'avoir cassé la gueule à des étudiants en mai 68. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'il entre dans cette galaxie des questions de défense, puisque effectivement, il est spécialiste, enfin, en tout cas, c'est plutôt l'ère géographique qui l'intéresse à la base. Comment est-ce qu'on en vient à faire pénétrer, enfin, perméer cette dimension-là à la dimension, à l'univers militaire?
C'est une bonne question sur laquelle j'ai pas vraiment de réponse, parce que je ne sais pas à quel moment il est entré dans le monde militaire. Parce qu'il faut savoir que cet homme, après avoir enseigné à l'université de Lyon, est entré dans la galaxie militaire, puisqu'il a enseigné et il a tenu des conférences dans la plupart des écoles de l'armée française, y compris dans les écoles de Saint-Cyr.
Il a été prof à Saint-Cyr.
Il a été prof à Saint-Cyr, sur le continent africain. Voilà. Et il continuait jusqu'à il y a encore peu à donner des cours et à tenir des conférences. Les conférences, il y tient toujours. Donc, j'ignore le moment, la bascule, en fait, où finalement il est entré dans cette galaxie des militaires. Mais pour moi, et ça c'est ma thèse, pour moi, en fait, s'il a réussi à rentrer dans ce milieu-là, c'est par le biais de ce que vous évoquiez juste avant, c'est-à-dire de son univers politique. C'est un monarchiste légitimiste. Il l'assume complètement, comme le maréchal Lyautey, cela dit en passant. Et il faut dire ce qui est, longtemps, au sein de l'armée française et au sein des officiers, il y a eu des monarchistes. Aujourd'hui, je pense que c'est plus trop le cas, mais il appartient quand même à un univers politique qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, et où il y a un certain nombre d'officiers qui sont proches de cet univers.
Alors ça, il faudrait toujours nuancer, parce qu'on peut dire que c'est vrai, c'est vrai dans l'absolu, il faudrait différencier finement, parce qu'on sait que toutes les armées ne sont pas égales disons, il y a des unités, il y a des corps, il y a des armes de prédilection pour ces univers-là. Bon, c'est pas vrai partout, mais dans certains endroits, c'est vrai qu'il y a des officiers qui ont été à l'extrême droite, il y en a encore, et qui l'assument assez bien, quoi. Enfin, je veux dire, encore. Bon, on n'est pas obligé d'entrer dans les choses plus contemporaines, mais en tout cas, il est certain que dans certains endroits de l'institution militaire, il y avait cette affinité-là, et donc, selon vous, qui aurait pu présider à, disons, l'entrée de Bernard Lugan dans son rapprochement avec l'institution militaire.
Disons que, en fait, il a commencé à prendre une certaine importance à partir du moment notamment où il a écrit sa lettre mensuelle que beaucoup de gens connaissent, l'Afrique réelle, et qui, elle, a tout de suite trouvé un public au sein de l'armée et au sein de son univers politique, d'extrême droite. À l'époque, à la fin des années 80, il est membre d'un comité scientifique du Front National, donc il n'a jamais caché ses accointances politiques. C'est ce qui a fait qu'il était relativement honni par ses pairs universitaires.
Oui, pairs, c'est généreux. Mais la question, c'est du coup pourquoi ça marche. C'est-à-dire parce que, il y en a peut-être qui l'ont fait entrer, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que des royalistes racialisants dans l'institution militaire, Dieu merci. Donc, en quoi est-ce que les propos de Bernard Lugan, les thèses de Bernard Lugan ont trouvé... Pourquoi est-ce que ça a trouvé un terreau relativement fertile dans les cercles de l'enseignement militaire supérieur, dans une certaine mesure, encore une fois?
Alors là aussi, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, on va dire, tranchée. Moi, pour le coup, ceux qui m'ont aidé à essayer de comprendre cette question, ce sont les journalistes défense. J'ai discuté avec des journalistes défense qui suivent les questions militaires depuis des années, voire pour certains plus d'une décennie, plus de deux décennies même, donc qui connaissent un peu, on va dire, la psychologie d'un certain nombre de militaires, notamment d'officiers. Et ils m'ont expliqué une chose qui me semble assez simple à comprendre, c'est-à-dire que les militaires se trouvent, quand ils sont sur le terrain, confrontés à des choix. Ils doivent faire des choix, et des choix qui ne sont pas simples, mais souvent dans l'urgence. Et quand on doit faire un choix, eh bien, on doit voir finalement un tableau assez clair. Et dans ce tableau assez clair, il doit y avoir une forme de vision binaire, en fait. Il y a le bien, et puis il y a le mal. Il y a l'ennemi, et il y a l'ami potentiel ou l'ami. Et Ludan, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il nous explique, à travers ses écrits, quelles sont les communautés avec lesquelles la France peut s'allier, quelles sont les communautés avec lesquelles elle ne peut pas s'allier. Et en fait, il peut apporter une forme de réponse à certaines questions que peuvent se poser les militaires. En sachant, mais ça, j'imagine, enfin, que ce n'est pas un spécialiste de ces questions-là. C'est un historien. C'est pas un sociologue, il n'est pas ethnologue, il n'a jamais travaillé auprès de ces populations. Mais pourtant, ce qu'il dit de ces populations-là, qu'il ne connaît pas, sont prises, non pas pour argent comptant, mais sont prises au sérieux par un certain nombre de militaires.
Soit dit en passant, on voit que c'est un parfait, parce que ça a aussi une dimension autoréalisatrice. C'est-à-dire, si on a en tête qu'avec certaines populations, ça peut marcher plus qu'avec d'autres, bah, en fait, il y a des chances qu'on fasse plus d'efforts, etc. Enfin, bon, il y a quelque chose de très performatif aussi à diffuser ce genre de conception, et du coup, on peut avoir l'impression d'une validation a posteriori, alors qu'en fait, on n'a fait que confirmer le point de départ biaisé, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Quoique là, sur le cas particulier sur lequel moi je me suis intéressé de la bande sahélo-saharienne, les conceptions de Bernard Ludan ont été prouvées par ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, Ludan...
Alors, donnez des exemples, par exemple. Qu'est-ce que c'est quelle conception de Bernard Ludan aurait été reprise et confirmée ou infirmée par l'expérience des faits?
Bon, sur le Sahel, à mon sens, aucune.
Mais c'est quoi, par exemple, si on parle en termes de population?
Oui, prenons l'exemple du Mali. Pour lui, ce qui se passe au Mali se résume à une guerre entre les populations noires du sud Mali et les populations blanches, entre guillemets, du nord Mali, c'est-à-dire les Touaregs, potentiellement les Arabes. Voilà. Mais c'est surtout sur les Touaregs qui s'intéresse. Et pour lui, en fait, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'une guerre qui viendrait de l'origine des temps et qui serait immuable. C'est ça le gros problème de Ludan. C'est que tout est immuable sur le continent africain avec lui. Alors que l'évolution de ces derniers temps, et là les militaires pour le coup ils l'ont bien vu, a montré qu'en fait on était très loin de ce fossé entre populations du sud et populations du nord, puisqu'on voit bien que le conflit a avancé vers le sud du Mali, et qu'on s'est retrouvé avec des populations qui étaient censées faire finalement le lien entre les populations dites noires du sud et les populations dites blanches du nord. Je pense aux Peuls qui sont dans le centre du Mali, et que finalement eux, ils ont un certain nombre de Peuls se sont emparés à leur tour de cette forme de combat qu'est le djihad armé. Et en fait, toute la théorie de Ludan, quelque part, qui est de dire les Noirs contre les Blancs, elle tombe à l'eau avec cette évolution-là. Et ça, l'évolution du Mali de ces 5 dernières années, elle ne peut que contredire sa version de l'histoire, en fait.
Et d'une manière générale, est-ce que ce prisme par communauté, ce prisme communautariste, l'idée que, appelons ça tribaliste, que le phénomène tribal est premier en Afrique, est-ce qu'on en voit d'autres exemples, d'autres manifestations dans la manière dont l'armée française a mené les choses au sein de Serval puis de Barkhane?
Non, à part les exemples dont on a déjà parlé, non, il n'y en a pas eu. C'est là où on en revient à votre introduction, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire que tout ce qu'a fait Barkhane, c'était mal et c'était guidé par cette espèce de vision colonialiste des choses. Non, il n'y a pas eu des cas. Mais il n'y a pas eu tant de cas que ça, en fait. Et pour ce qui est du reste du continent africain, je suis incapable de le dire parce que je n'ai pas travaillé là-dessus. Mais... Pour le coup, avoir discuté quand même avec un certain nombre de militaires, il y a une vision qui est relativement partagée d'un continent qui n'évoluerait pas. Et qui serait finalement comparable d'année, de décennie en décennie.
C'est-à-dire que tout ça, c'est exactement le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy de 2007. Enfin, c'est pas, c'est on est, bon, c'est il y a pas que les militaires qui pensent comme ça.
Dans Alors là, on est totalement d'accord, et je dirais même que c'est un discours qui est en train de gagner le débat public politique aujourd'hui. Donc les militaires, pour le coup, moi j'ai toujours pensé que les militaires faisaient partie de la société et que finalement les biais qu'on peut retrouver dans l'armée, mais on peut aussi les retrouver au sein de la société.
Mais si on applique la chose un peu, c'est donc... Mais c'est intéressant, parce que c'est une question vraiment compliquée. C'est comment se renseigner sur un problème sans pour autant que ça englobe et que ça empêche de voir ce qu'on a sous les yeux, quoi. C'est-à-dire comment travailler ces sujets avant d'être sur place, en quelque sorte. Et parce qu'on sait, enfin j'y pense en passant, que par exemple l'armée américaine a développé des sociologues, des ethnographes, etc., pour justement essayer d'avoir une appréciation un peu plus précise des situations en Irak et surtout en Afghanistan. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à se renseigner efficacement sur des zones où on est toujours tributaire un peu de la littérature qui parfois n'est pas suffisante, quoi.
Je pense qu'on est bien placé ici à l'IRSEM pour avoir un peu la réponse à cette question. C'est-à-dire que l'idée de travailler avec des chercheurs en sciences humaines et sociales pour aller travailler sur le terrain auprès de ces populations, c'est la base. Moi, ce que je peux dire, c'est que beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur ces zones-là ont tous eu, à un moment donné ou à un autre, à travailler ou à discuter ou à collaborer même avec l'institution militaire ou avec certains services de l'institution militaire. Mais la plupart ont quand même le sentiment de ne pas être écoutés.
Alors là où c'est très intéressant, c'est que pour revenir une seconde au papier sur Lugan, ce que vous indiquez aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'il a été influent, etc. Parce qu'il y est allé. Et c'est quelque chose... Enfin, il allait à Saint-Cyr. Bon, Saint-Cyr, c'est loin de Paris, c'est tout bête, mais en fait, il faut avoir envie d'y aller. Et ce que vous indiquez, c'est qu'il y a peut-être... Bon, certains chercheurs qui étaient moins disponibles, qui se sont sentis moins disponibles, et que donc, bah, lui, c'était le seul à vouloir y aller. Et du coup, on voit que ça a d'énormes conséquences sur le très long terme, parce que bah, quand on... Enfin, c'est le propos de l'enseignement supérieur, mais c'est encore plus marqué sur l'enseignement militaire supérieur. Quand on donne un peu les clés du camion à quelqu'un, bah, ça a des conséquences pour... Il suffit pas qu'il s'arrête d'enseigner pour que ça n'ait plus de conséquences, il faut ensuite que tous les gens qu'il a formés attendent qu'il change d'avis ou qu'il disparaisse de l'institution. C'est des trucs avec une inertie gigantesque, l'enseignement militaire supérieur.
Oui, et en fait, on se rend compte que, pour revenir sur le début de votre question, que effectivement, Lugan, quand il va enseigner à Saint-Cyr, et ça, c'est des enseignants de Saint-Cyr qui m'ont expliqué, c'est qu'à l'époque, il y va, peut-être qu'il aurait été choisi, mais il y va surtout parce que un grand nombre d'universitaires ne veulent pas y aller. Soit parce qu'ils se méfient de l'institution militaire, soit parce qu'ils n'ont pas envie de les embêter à aller en Bretagne, à dormir dans des conditions pas très confortables et tout ça. Et en fait, et c'est là où je voulais en venir, on se regarde un peu en chien de faïence, ces deux mondes que sont le monde universitaire et notamment des sciences humaines et sociales, et puis le monde militaire, et de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une grosse réticence de la part d'un certain nombre d'universitaires à collaborer avec l'institution militaire, et vice-versa parfois. Et en fait, et c'est sûr que ça donne finalement ça donne le champ libre à certaines personnes qui n'ont pas ces réticences, mais qui ont peut-être un biais, que ce soit politique ou scientifique, qui ne représente peut-être pas, on va dire, la majorité ou en tout cas, qui entre en contradiction, on va dire, avec ceux qui travaillent sur le terrain. Parce qu'il faut dire une chose quand même, Bernard Lugan ne va pas sur le terrain. C'est quand même très important.
Ouais, il n'y a pas besoin, puisqu'il est historien. Ça, c'est... Bon. Non, mais et si on renverse une seconde la perspective, est-ce que présence du passé colonial, c'est un truc que vous avez senti aussi chez les populations locales. C'est-à-dire, est-ce que, de la même manière, dans les populations qui sont quand même l'objet de ces politiques, enfin de ces opérations, etc., vous avez l'impression qu'il y a aussi cette espèce de mélange entre passé colonial et présent militaire d'OPEX, ou est-ce que c'est autre chose, ils réfléchissent différemment, notamment parce que y a des conceptions de la temporalité qui sont un peu différentes, etc., des manières de transmettre les récits, enfin bon, il y a des conceptions historiques différentes, disons ça comme ça.
En fait, je pense qu'il y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse qui est liée à l'actualité. Aujourd'hui, on voit que le passé colonial, il est toujours très présent, en fait, dans tous les imaginaires collectifs des peuples colonisés, bien plus que dans l'imaginaire collectif, dans notre imaginaire collectif à nous. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays d'Afrique, notamment l'Afrique francophone, moi, c'est celle que je connais essentiellement, le poids du passé, il est encore très présent. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe, toutes les manifestations de rejet de la politique française, elles sont pas seulement liées à ce qu'on pourrait appeler l'échec de Barkhane, elles sont liées à tout un historique, en fait. Voilà. Mais, et donc ça c'est quand même très important pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans le rejet de la force Barkhane, d'une partie des populations. Le deuxième axe de la réponse, c'est par contre, il faut dire aussi que une partie des populations n'ont finalement pas été en contact et donc ont un héritage très faible avec notamment l'institution militaire française durant la colonisation. Et par contre, effectivement, du côté des populations Touareg, elles ont été en contact direct parce que la conquête a été menée par des militaires, il y a eu des combats, mais aussi parce que l'administration de ces zones sahariennes était le fait, en général, de militaires. Donc en fait...
Alors que le plus au sud, c'était des administrations civiles.
Tout à fait. Donc là, pour le coup, l'héritage est plus important. Mais par contre, et ça, pour en avoir discuté avec de nombreuses des anciens, notamment parmi les Touaregs, donc cet héritage est encore omniprésent. Mais ce qui m'a fait, moi, ce qui m'a un peu amusé, c'est que par contre, autant le mythe de l'homme bleu dont on a parlé tout à l'heure, il est assez romantisé du côté d'une partie de l'armée française. Mais alors, le mythe du militaire français, il n'est pas du tout romantisé du côté de ces anciens, de ces vieux Touaregs, en fait. Ils ont des souvenirs, ils en parlent, mais il n'y a pas une espèce de romantisation de cette relation, en fait. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'a assez amusé, parce que c'est un mythe qui n'est pas partagé, en fait.
Enfin, il y a peut-être un... Faut dire un mot peut-être d'une référence qui est souvent maniée autour de l'institution militaire, autour des questions militaires, dans sa dimension coloniale, mais pas seulement. Enfin, il y a quelques semaines ou quelques mois encore, on parlait de son article sur le rôle social de l'officier. C'est le maréchal Lyautey, qui est l'objet du quatrième article de la série. Donc est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est une référence que vous avez trouvée importante et en même temps potentiellement problématique, cette référence à Lyautey? Parce qu'on va... Bon, c'est compliqué, Lyautey. C'est pas que du mauvais, c'est compliqué. Mais donc pourquoi est-ce que vous y êtes intéressé particulièrement?
Alors, je vais y revenir justement à ça. Elle est importante à double titre. D'abord, c'est pas moi qui détermine son importance, c'est l'armée. De toute évidence, le maréchal Lyautey, il suffit de parcourir les documents officiels, les revues militaires. Lyautey est omniprésent. Il est cité dans la plupart des documents et un grand nombre d'articles, même issus de revues militaires, évoquent je ne sais plus quelle revue avait fait un dossier sur l'actualité de Lyautey. Donc en fait, c'est Lyautey qui a été remis au goût du jour. Alors je vais passer sur l'historique, mais en fait il avait été un peu oublié après les décolonisations. Et puis en fait...
Lyautey, on peut dire que c'est un grand militaire, mais aussi un très grand administrateur. Alors il a fait des opérations militaires, mais notamment au Maroc. C'est quelqu'un dont on a gardé le souvenir, parce que le Maroc, c'était une situation évidemment compliquée d'un point de vue colonial, avec les protectorats, etc. Bon, en tout cas, il a laissé un souvenir d'efficacité. Sur le moment, il n'était pas toujours consensuel, notamment parce que sa personnalité était problématique pour l'époque. On peut dire qu'il était homosexuel ouvertement et que c'était, bon, pas forcément le truc qui passait le plus évidemment, le plus facilement dans l'institution à cette époque-là. Mais il a gardé un souvenir de... Il a réussi là où bien d'autres s'étaient empêtrés dans les problèmes de la situation coloniale.
Oui, d'efficacité et d'une forme d'humanisme aussi, parce qu'il est resté comme un officier, parce que sa théorie, c'était de dire qu'on ne pouvait pas tout imposer par la force, mais qu'il fallait aussi s'imposer, certes par la force, mais aussi en essayant de comprendre le fonctionnement des populations locales et donc de s'en faire des alliés. Il est resté, il a gardé cette image d'un officier un peu humaniste qui ne voulait pas uniquement s'imposer par la force. Moi, je trouve que c'est très intéressant, ça. Parce que du coup, aujourd'hui, on a moins de mal à le citer en exemple. Parce qu'il représenterait, quelque part, un colonialisme humain. Voire bienfaiteur, pour certains. Moi, ça m'intéresse parce que selon que l'on se place sur le spectre, en fait, de la vision du colonialisme, pour moi, le colonialisme, il n'y a pas de bienfait. C'est quelque chose qui a détruit des sociétés. Et en fait, le fait d'avoir cette référence aujourd'hui, et là, je parle en mon nom propre, ça me choque. Ça me choque parce que je peux comprendre que d'un point de vue opérationnel, on peut estimer que là ou là, il a eu des succès, mais sur l'aspect politique dont vous avez parlé de l'IOT, de l'héritage politique qu'on peut avoir de lui, je trouve que c'est vraiment problématique de s'en servir comme d'un exemple aujourd'hui.
Mais alors, c'est une question très intéressante qui est la question de la référence au passé, parce que, bon, si... On interrogera après ce postulat, mais s'il faut avoir des points de repère dans le passé historique, je peux vous dire que Lyotet, c'est... Bon, certes, il y a des passages qui font un peu grincer des dents, mais c'est mieux que Bugeaud, et c'est mieux que Jules Ferry aussi, avec toutes les choses sur le rôle civilisateur de l'homme blanc, etc. Donc, voilà, si on se cherche des points de repère, fatalement, si on en cherche certains qui soient pas trop glaçants... Bon, c'est un peu pour ça qu'on retombe sur Lyotet, on a l'impression.
Tout à fait. Mais la question, c'est pourquoi avoir besoin de points de repère datant de cette époque-là. Voilà. Qu'on ait des points de repère, encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'histoire de l'armée, de l'institution militaire ou même de la conquête coloniale ou de la France. Il s'agit de se demander, est-ce qu'aujourd'hui, ces références-là doivent servir d'exemple et doivent quelque part alimenter les réflexions, notamment en matière de doctrine, du moment. Moi, ma réponse, mais en tant que citoyen, en fait, pas en tant que, ni qu'expert de questions militaires, encore moins de militaires, j'ai pas de réponse. Mais par contre, je pose la question, est-ce que vraiment, on peut pas avoir d'autres références en la matière ?
Alors, c'est une question tout à fait intéressante, parce que ça pose aussi la question de qu'est-ce que fait la France, là ? Et... une des réponses qui est souvent apportée, en tout cas, c'est de dire que... Pourquoi est-ce que c'est la France qui est intervenue en 2013, etc. C'est parce que la France connaît la région, a un passé dans la région, et donc a une connaissance historique. Et c'est ça qui impliquerait une efficacité supérieure de la France. Enfin, voilà, c'est l'idée que, bon, si les Américains étaient débarqués, avaient débarqué au Sahel, probablement que ça aurait moins bien marché que les Français, parce qu'il y a une connaissance, une épaisseur historique... Et un certain savoir-faire français qui vient de cet épisode historique qui est la période coloniale étendue, quoi.
Alors moi, pour moi, ça reste à démontrer. Vous parliez tout à l'heure du relatif échec à débattre de l'opération Barkhane. Une chose dont on est certain, effectivement, c'est que l'opération Serval est un succès. Ça, je crois que personne ne le nie.
Donc Serval, c'est mais 2013, est-ce que c'est... vraiment la phase 2013 d'intervention et de chasser les groupes djihadistes vers le nord.
Mais est-ce que c'est un succès parce qu'on a cette soi-disant connaissance du terrain ou pour d'autres raisons ? Je l'ignore. Par contre, là où je voulais revenir, c'est que si la France intervient en 2013 à la demande du Mali, c'est pas parce que la France a la connaissance du terrain, c'est parce que la France est restée le principal partenaire du Mali depuis... l'époque de la décolonisation. Il y a une parenthèse où le Mali s'était rapproché de l'URSS. Mais et donc là, on est dans des questions uniquement politiques et diplomatiques, en fait. Le Mali ne vient pas chercher l'aide de la France parce qu'il croit que l'armée française, connaissant le terrain, est en mesure de l'emporter. Il vient chercher l'aide de la France parce que c'est son premier partenaire et qu'il sait qu'il pourra compter sur elle. Sinon, en matière d'efficacité militaire, je ne dis pas que les États-Unis auraient mieux réussi que la France, mais d'un point de vue, on va dire, un peu neutre, les États-Unis ont plus de moyens que la France. Donc, cette question-là, elle n'a pas joué dans le choix de Bamako d'appeler à l'aide à la France. On est vraiment là des questions politiques et diplomatiques et historiques, en fait.
Mais du coup, ouais, c'est... Pour autant, est-ce qu'on peut admettre que... Enfin, l'armée est obsédée par le passé. Mais pour de bonnes raisons, parce que c'est le souvenir des anciens, c'est le souvenir des gens qui sont morts pour la France, c'est le souvenir des sacrifices, enfin bon, et c'est l'idée aussi que si on fait un sacrifice similaire, ce ne sera pas en vain et qu'on s'en souviendra. Donc, bref, tout ça pour dire que l'armée est structurellement obsédée par le passé et les traditions, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer des points de référence dans ces zones-là qui ne soient pas problématiques pour une institution qui structurellement est vraiment extrêmement attaché à regarder en arrière et à regarder ses actions passées, quoi.
Ouais, et je vais répondre à cette question par une autre question, en fait. Du coup, du fait de se passer, qui n'est pas encore digéré, ni de part et d'autre, des deux côtés de la Méditerranée, en fait, est-ce que finalement, la France est le pays le mieux placé pour intervenir militairement aujourd'hui dans ses anciennes colonies? C'est une question qui se pose aujourd'hui, et on voit bien avec les nombreuses mobilisations dans certains de ces pays contre la force Barkhane, y compris au Burkina Faso récemment, contre le convoi de l'armée française, alors que pas grand monde ne s'y attendait, en fait. Est-ce que la France est aujourd'hui la mieux placée pour agir militairement dans ces régions? C'est une question qui, à mon sens, est cruciale, en fait. C'est pas par volonté de critiquer la France. On est dans le résultat, en fait, d'une histoire qui n'est toujours pas digérée. Qui est encore très proche, finalement, et qui n'a pas été... qui mériterait encore que le temps passe, en fait, et que aussi certaines formes de violence soient reconnues. Et tant qu'on n'est pas dans cette situation, je ne suis pas certain, moi, que l'armée française soit la mieux placée pour intervenir dans ces zones, en fait. Parce qu'on en revient encore à cette question de l'héritage colonial.
Et la question, enfin, ce qu'on vous répondrait, c'est... On peut répondre à votre question par encore une autre question qui est, mais si la France ne le fait pas, qui a la capacité et la volonté de le faire? Bref, je laisse donc les auditeurs sur cette énième interrogation. Surtout, je les renvoie vers cette série de 4 articles librement disponibles sur Afrique 21. Série donc intitulée « Aux origines coloniales de l'opération Barkhane ». Premier article sur les échos coloniaux. Deuxième sur l'influence de Bernard Lugan. Le troisième, sur la vision française des Touaregs. Et le quatrième sur la référence durable au maréchal Lyautey. Merci beaucoup, Rémi Carriel.
Merci à vous.
C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que tous les commentaires, toutes les remarques, toutes les notes sont bienvenues aussi, que ce soit par Apple Podcast ou sur SoundCloud, et ainsi que tous les retours qui sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.